un peu réfléchi à la question que vous avez posée.
Dis-moi quand même comment tu t'appelles en hébreu. Eliezer. Je pense que peut-être, si on arrive à dégager une séance comme ça, comme Eliezer a demandé hier soir, j'aimerais bien voir comment les notes sont dans vos cahiers, c'est-à-dire de partir d'un cahier de notes et de faire des mises au point de formulation. Alors, ce que je vous demanderai, si vous avez un peu de temps maintenant, dans les jours qui viennent, c'est malgré tout préparer vos cahiers de notes. Je ne sais pas comment vous travaillez. Vous prenez un brouillon et ensuite vous mettez au propre, vous prenez directement. Mais oui, mais il faudrait diger ça ensuite. Et laver tout ce qui est ce journal. Bon, alors peut-être qu'on commencera comme ça. C'est dommage qu'aujourd'hui je fasse ça. On va avancer dans le cours. Alors écoutez, et on va faire un petit bilan pendant un quart d'heure des notions qu'on a apprises dans ces deux cours. Après tout, on n'en a eu que deux sur le Maharshi Bereshit. Bien. Bien. Alors je crois que une des notions fondamentales que vous avez découvert, c'est la notion de projet. C'est-à-dire, ce qui doit apparaître, c'est que il s'agit d'un récit. Il s'agit d'un récit qui donne à la dimension du temps et à l'histoire une importance centrale. C'est-à-dire, à travers le temps, il se passe quelque chose. Bien, lorsqu'on se familiarise avec l'atmosphère de ce récit, on s'aperçoit qu'il y a un point de départ et un projet qui va vers un certain avenir à accomplir. Et c'est disons une première catégorie principale qui permettra de ranger les autres notions. Et nous étions arrivés en conclusion hier à la question qui se pose, on pourrait formuler ainsi, quel est le projet pour le septième jour? Est-ce que tout est clair pour tout le monde dans cette ère? Okay. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ce qui s'est passé dans les cycles précédents, mais pour le moment, par postulat, on va considérer cela comme une sorte de préhistoire qui est récapitulée, et l'histoire, à proprement parler, commence avec l'homme. Et donc on est déjà familier à cette notion. Le premier homme, Adam Arishon en hébreu, est donné à une histoire d'accomplissement d'un certain projet. Et les différentes notions d'ordre philosophique, théologique, culturel en général, qui pourront se greffer, viendront s'intégrer à l'intérieur de cette catégorie générale. Par exemple, il est inévitable qu'une question comme celle de la liberté, dont nous avons déjà parlé hier, apparaisse. Et corollairement, l'idée du décalage entre l'effectuation du projet tel qu'elle se passe dans la réalité et le projet de vérité à proprement parler. Et toutes les autres notions. Bon. Alors, qui se souvient de la définition que j'ai donnée hier soir du projet pour l'histoire de l'homme? La notion de sainteté. Et je vous avais demandé de réfléchir à une définition possible. Et c'est cela qui va être le sujet de l'étude aujourd'hui, en partant d'ailleurs des trois versets que vous avez déjà un peu exploré, c'est-à-dire les trois premiers versets du deuxième chapitre. Alors, ayez ça sous les yeux, on va voir tout. Quelqu'un a une hypothèse à proposer? Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Absolument corollaire. Pour les six jours que la Torah nous a raconté dans le Maasé Bereshit, dans le récit de Shechet Yemei Maasé, nous avons eu chaque fois le même verset qui revenait et qui montrait que chaque étape était close. Même s'il y avait approximation entre la réalité et la vérité du projet, on est quand même passé de jour en jour d'une étape à l'autre. Et vous vous rappelez que je vous avais signalé qu'il n'était pas encore écrit Vayere, Vayboker, Yom, Shvi. N'est pas encore écrit dans le texte. Et ce fut soir, ce fut matin, jour, septième. Rappelez-vous. Bon. Quel est le D'après ce que vous savez de l'histoire de l'humanité depuis le début, si nous retenons ce postulat de définition qu'il y a un projet qui cherche à se réaliser dans l'histoire humaine, par postulat, je vous ai dit, la Torah appelle cela le projet de sainteté. Comment dit-on en hébreu, sainteté?
Kedusha.
Alors essayez de confronter cette notion, même si elle n'a pas encore sa définition, on va essayer d'y arriver, avec votre expérience de ce qui se cherche à travers toute l'histoire humaine et qui n'arrive pas encore à se réaliser, mais qui serait le problème essentiel. On va essayer de procéder par approximation. Vous avez compris ma question? Admettons par postulat que vraiment l'histoire humaine n'est pas une série d'événements qui s'organisent par détermination, qu'elle soit causale ou finaliste, enfin mécanique. Lorsque vous avez, lorsque vous lisez un manuel d'histoire, quelle est l'impression que vous avez? Qu'on vous raconte des événements et qu'on cherche malgré tout à trouver une cohérence de ces événements, un principe explicatif. Et je reprends donc ce même terme, une sorte d'objectif qui se cherche à travers ces événements. Bien. Et est-ce que vous avez réfléchi une fois à cette perspective? Il y a différentes, et ça nous le reverrons dans les cours du jeudi, il y a différentes doctrines possibles à partir de ce postulat. Est-ce qu'il y a un projet de l'histoire humaine et que serait-il? Par exemple, question simple, est-ce que vous connaissez un peu le marxisme? L'atmosphère idéologique du marxisme? Qu'est-ce qu'un marxiste répondrait? Quel est le sens de l'histoire?
La disparition des classes.
Et par conséquent, c'est dans quel ordre ce problème? Dans quel ordre des faits? Quand tu dis, non, on va analyser ça. Mais quand on dit les classes, une des classes, disparition des classes, et la question n'est pas encore pour le moment de savoir si c'est utopique ou si c'est pas utopique. Dans tous les cas, tout projet est utopique d'une certaine manière. Et toute utopie, d'une certaine manière, est nourrie d'une certaine force, d'une certaine énergie de type messianique. Je dis bien de type messianique. Alors, quand on pose le problème d'une telle définition de ce que serait le projet de l'histoire, d'un engagement dans l'histoire, et je pense que cette expression est très claire. S'il y a un sens à l'histoire, quel est-il? Alors, la mentalité marxiste, enfin l'option marxiste, répondrait par exemple cela. C'est dans quel ordre de phénomène humain qu'on va situer ce projet? À quel niveau?
L'égalité.
L'égalité quoi? L'égalité
sociale.
Sociale, plus précis.
Économique.
C'est-à-dire que là, nous aurions une approche du problème, une certaine intuition, et donc une doctrine qui en découle, et un engagement politique qui en découle, qui ferait que pour que l'histoire humaine réussisse, il faut résoudre le problème économique. Et un des points les plus centraux de ce problème, c'est l'inégalité économique. Par exemple, puisque nous parlons de cela, quelle est la formule de la révolution socialiste? Quel est le slogan qu'a donné la révolution socialiste? Et pour vous éclairer sur ma question, quel est le slogan qu'a donné la Révolution française?
Liberté.
D'accord, c'est pas exactement ce que je demande, c'est exact. Quel est le principe de la Constitution de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Donnez-moi la formule exacte. Tous les hommes naissent égaux en droit et en. Bon, ça c'est un exemple. Je ne vais pas analyser cela aujourd'hui, on le verra dans d'autres études. Réfléchissez déjà une fois, mettez ça dans un coin de votre mémoire et de vos notes. Est-ce que ce principe vous paraît vraisemblable, cohérent, vrai, logique? Est-ce qu'on peut dire que. Est-ce que. Enfin, je ne voudrais pas. Comment dire. Je ne voudrais pas donner une réponse en posant la question. Okay? Moi, j'essaye de formuler de façon neutre. Est-ce que ça vous paraît vrai? J'ai l'impression que je vous ai impressionné par ma question. Mais c'est pas impressionnant. Peut-être c'est vraisemblable, peut-être ce n'est pas. Bon, enfin, je veux dire, réfléchirez à cette question. On va un jour réfléchir sur la notion d'égalité, si la notion d'égalité est valable entre des hommes. Peut-être qu'elle est valable entre des choses. Est-ce qu'elle est valable entre des personnes? La notion de l'égalité d'une personne, à quel niveau est-elle vraisemblable? Puisqu'on parle de ça, il faut quand même avancer un peu. À quel niveau me semble-t-il que dans ce slogan de la Révolution française, qui a été extrêmement important, je parle de la Révolution française pour l'histoire de l'humanité, et ça a touché en particulier très notablement l'histoire du peuple juif, ça vous l'apprendrez en cours d'histoire, ce qui s'est passé en France à ce moment-là a eu une grande importance dans l'histoire du peuple juif. Le 14 juillet, c'est une fête du calendrier juif. Non, ça c'est une blague, non, c'est un peu. L'émancipation a commencé là. Pas seulement l'émancipation intellectuelle, mais l'émancipation sociale, civique. À quel niveau la notion de l'égalité des, j'allais dire des droits, l'égalité tout court, peut être valable pour une personne? Au niveau des personnes. Vous ne devinez pas la réponse.
C'est juste une situation identique au départ.
Non, non, mais il s'agit bien, bien servicieux, il s'agit précisément de cela, du départ, de la naissance. L'homme naît au niveau moral. Dans tous les autres niveaux, la notion d'égalité n'a pas de base. Ça, nous l'étudierons d'une autre manière. Bon, et quel est le slogan de la révolution socialiste qui s'appelle la révolution d'octobre? C'est à chacun suivant ses besoins. Vous voyez que tout de suite, le principe du projet de l'histoire selon la Révolution française, par exemple, selon disons, les idéologues de la Révolution française, a été malgré tout formulé à un niveau moral, liberté, égalité, fraternité, alors que la Révolution socialiste l'a formulé d'emblée à un niveau économique, à chacun suivant ses besoins. Quel est celui des deux slogans qui vous paraît le plus vraisemblable? Mince.
Plus réalisable, c'est quoi
le plus fondé, le plus vrai, c'est peut-être pas le mot qu'il faut dire, mais vous comprenez.
Le premier, parce que comment définir les besoins de chacun?
Plus
bon,
hein?
Le premier, parce que le second, ça pose le problème de savoir définir les besoins de chacun. Et au niveau moral, le premier point moral.
Mais je vais peut-être vous étonner. Du point de vue des critères de la tradition juive, les deux sont valables. Mais le deuxième est beaucoup, beaucoup plus efficace que le premier. Et cependant, on voit qu'il échoue. Donc on voit que quelques exemples, quel que soit l'exemple que l'on prendrait, des intuitions que l'histoire a un projet, que l'histoire a un sens, et que donc la vertu, c'est d'aller dans ce sens de l'histoire, pas seulement pour un intérêt égoïste de celui qui se pose le problème, mais pour l'humanité en général, pour autrui, eh bien on s'aperçoit que il y a, semble-t-il, chaque fois des difficultés insurmontables. Et si on fait un bilan global, quel que soit l'optimisme de l'engagement individuel de chacun qui reprend le problème, chacun à sa manière, chacun dans sa doctrine, disons le libéralisme issu de la Révolution française, qui échoue très rapidement d'ailleurs, ou bien le socialisme, qui est, l'esprit socialiste qui est issu de la Révolution d'octobre, on s'aperçoit que tout se passe comme si l'histoire humaine est donnée à un problème d'une certaine manière impossible à résoudre. Ce que je mets en évidence, c'est l'atmosphère du récit, que nous avons commencé à lire dans la Bible et qui va dans ce sens. Vous avez commencé à lire les premiers chapitres. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que c'est un récit d'échecs successifs? Est-ce que c'est clair? Bon, et ceci se retrouve d'ailleurs pour tout exemple qu'on peut prendre dans la réalité historique. Il y a des tentatives, chacune choisissant un critère qu'elle se donne, qu'elle choisit, un idéal, pour définir ce qui, selon elle, est le sens de ce projet à travers l'histoire humaine dont nous parlons. Et puis, on voit que chaque fois, semble-t-il, le problème est impossible à résoudre. Bon, ce qui apparaît là, d'une certaine manière, c'est une notion d'échec perpétuel. Et d'une certaine manière, on a une sorte de réaction pessimiste à la lecture du récit qui va commencer à l'histoire du premier homme. Tout se passe comme si la Torah, très intentionnellement, très lucidement, nous raconte l'histoire d'une tentative qui, semble-t-il, est sempiternellement celle d'un échec. Est-ce que c'est clair? On retrouve quelque chose d'analogue dans cette atmosphère du récit, dans ce que nous savons d'autre part de l'histoire universelle. Bon, je vous ai donné deux exemples. Le projet de la Révolution française a échoué. Ça C'est très schématique ce que je vous dis là. En tout cas, il n'a pas encore réussi. Y a-t-il possibilité qu'il réussisse un jour ? N'y a-t-il pas quelque chose de faussé dans les données du problème ? Le projet de la révolution socialiste semble-t-il aussi qui est en cours de tentative. Par exemple, actuellement, il semble que ce soit les sociétés occidentales qui, à leur tour, viennent rejoindre ce projet. Je pense pas que ce soit un hasard de l'histoire que le régime en France actuellement soit un régime socialiste, le régime récemment en Grèce, ou dans d'autres, bien. Et puis, nous trouvons cette même atmosphère dans le récit biblique, mais le récit biblique, lui, prenons par postulat, encore une fois, pour pouvoir avancer un peu rapidement, assigne un tout autre projet à l'histoire humaine, je veux dire formulé de façon tout à fait autre. Le projet ne s'invite plus. Bon, ça vous a aidé un peu à avancer dans l'analyse. Alors, essayez maintenant de répondre. Si on vous demandait, qu'est-ce que ça veut dire la sainteté, essayez de répondre. Comprenez, l'idée d'égalité, liberté, fraternité, et égalité au niveau civil, la notion de citoyen apparaît dans la Révolution française de façon très, très forte. Vous vous rappelez, à cette époque-là, on vous appelait pour changer de régime, pour montrer qu'on avait changé de régime, on n'a pas seulement changé de drapeau, on a changé de vocabulaire, on s'appelait citoyen. Vous vous rappelez ? Et puis, chez les. Dans la révolution socialiste, on s'appelait camarade. Vous voyez à peu près cette option historique de type messianique chaque fois, mais qui chaque fois mène à l'échec. Alors, vous avez compris maintenant ma question ? Je crois que toi tu vas être content.
Tous ces projets idéologiques cherchent toujours à établir une certaine relation entre les hommes, donc sont des projets horizontaux. Alors que le projet de Kedusha serait lui un projet vertical.
C'est déjà pas mal ça. Alors, exploite cela.
Et vous allez avoir.
Qu'est-ce que ça donnait comme différent ? D'abord, explique pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on appelle horizontal ça ? Je pense que tout le monde a compris, ça va être vertical.
Vertical, ce serait justement essayer de rejoindre par cette qualité spécifique. Spécifiquement divine que nous a donné Hachem, qui est la Kedusha, essayer de rejoindre ce dont il nous a séparés en nous donnant cette qualité. Quand il nous a donné la Kedusha, il s'est en même temps séparé de ce qui est une qualité qui lui était propre.
Il y a trop de choses à la fois. Bien, on cherche la définition de cette Kedusha, donc on ne peut pas utiliser le terme dans d'autres raisonnements qui vont nous faire avancer par la suite avant de le définir. Et je ne sais pas si j'ai réussi ce matin à vous faire comprendre la direction de ma question. Et alors, vous allez répondre et puis je vais vous dire tout de suite.
Si on prend et il fit l'homme et il fait l'homme à son image, donc par exemple, son image, et qu'on dit que cette image, bon, une chose comme ça, que cette image, c'est sur son projet.
Alors, attends, je ne vais pas m'en aller plus loin parce qu'on n'a pas encore étudié cette expression, il fit l'homme à son image.
Non, mais on a eu comme référence hier par rapport au produit, à propos du décalage. Oui.
J'ai employé cette expression-là. Peut-être que tu l'as noté toi-même.
Je vais te dire. C'est la référence des psaumes.
Ah oui, mais on n'a pas étudié.
Non, on trouvait une image de décalage.
Je ne t'ai pas donné ce passage là. Je vous ai donné le verset 25 et 26, pas plus. Attends deux.
24 et 25,
pas plus. Toi, tu préfères au verset 26. Attention. Donc, je vais vous dire pourquoi. Vous avez entendu ce qui s'est passé là. Parce qu'on ne sait pas encore si cette idée que Dieu a fait l'homme à son image est exacte. Ça, vous avez lu en français. Et qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas encore. Donc, on ne peut pas l'utiliser. C'est clair? Bon, c'est encore une des surprises que vous allez avoir. Une espèce de gloire de l'homme, il est à l'image de Dieu, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et peut-être que ce n'est pas du tout la traduction de l'hébreu. Attention à ça.
Okay. Vous nous avez dit que quand Dieu a sanctifié le Shabbat, il s'est séparé. Donc, vous avez donné cette notion de séparation qui est associée à la Kedusha.
Oui, mais ça c'est disons la dimension négative de la notion de séparation que je vais expliquer tout de suite pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est à partir du moment où quelque chose est devenu authentique, il est séparé de tout ce qui n'est pas encore authentique. C'est clair ? Il est mis à part. Et cette notion de séparation n'a rien de négatif. Mais malgré tout, dans la définition, c'est la dimension, disons, oui, négative la définition. Ce que je cherche, c'est la définition positive. C'est-à-dire, ici ça veut dire que celui qui a atteint un quelconque niveau de sainteté est radicalement différent de celui qui ne l'a pas encore atteint. Il est séparé de la non-sainteté. Mais la sainteté, qu'est-ce que c'est ? Oui, on est encore dans une définition formelle. On va passer du français à l'hébreu aujourd'hui. Tiens, qu'est-ce que tu veux?
Est-ce que ça ne serait pas le retour à l'état de l'homme? Parce que vous avez expliqué également que dans le jeu du Shabbat, où l'homme redevient exactement son état réel. Donc pour moi, le mot.
Très bien, en enlevant. Très bien, je crois que ça c'est clair. En enlevant le mot retour. Ça c'est une interprétation. Est-ce que ça veut dire revenir à un état? C'est un autre problème.
Voilà.
Mais c'est-à-dire que l'homme est véritablement homme, c'est ce que nous avons étudié Shabbat. Très bien. Et c'est d'ailleurs la définition même de la sainteté du Shabbat, de la kedusha du Shabbat. C'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans?
Qu'est-ce qu'il y a dedans? Peut-être la compréhension du 8e jour.
Attendez, donnez-moi un synonyme en français du mot sainteté, du mot saint. S-A-I-N-T. Un synonyme. En tout cas, ça, je suis favorablement impressionné que vous n'ayez pas encore employé ce mot-là que je vais critiquer tout de suite. Ce mot que je cherche. Ça ne vous est pas venu à l'esprit, c'est la première année que ça arrive de prendre. Le mot de sacré. Hein? Bon. Pourquoi vous ne l'avez pas employé? C'est très bien que vous ne l'avez pas employé, d'ailleurs. Quelle est la différence entre saint et sacré? Non, non, bah, au moment, laissons le vocabulaire chrétien de côté, effectivement. Non, en français,
c'est quelque chose sur... On a posé l'image de sainteté.
Bon.
Sacré, c'est quelque chose de nettement supérieur à une chose. Sainteté, c'est l'homme qui a décidé de le faire. Sacré, c'est au-dessus de l'homme.
Non, 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 donnez-moi l'emploi que vous avez du mot sacré en français. Bon, ça me fait plaisir parce que c'est la première fois que. Instinctivement, vous avez une séparation de vocabulaire. En général, il y a une espèce de confusion entre ces deux termes dans les textes français, et très souvent, vous trouvez dans les textes de traduction, les textes hébreux en français, le terme de sacré pour traduire Kadosh ou Kedusha. Et c'est une catégorie qui ne fait pas partie du vocabulaire hébreu. Saint, S-A-I-N-T, qui est d'ailleurs assez proche de Saint Santé. Santé, c'est la santé de Saint, et puis c'est comme ça. Bon, et puis sacré. Quelle
différence? Quand
on dit
qu'un roi est sacré, donc il est sacré, l'élimination par rapport à
l'ensemble. Très bien, ça c'est dérivé. Okay. C'est dérivé. Tu as dit toi-même consacré. Oui. Toi, il y a quelque chose qui me gêne. Est-ce qu'il manque quelqu'un? Je sens qu'il manque quelqu'un. Je ne sais pas qui. Tu es sûr que pas? En général, ces places-là sont vides, alors. D'accord. Ça, c'est un peu dérivé. Voilà, dans sacré et l'étymologie latine, le monde, il y a l'idée d'une certaine réalité mystérieuse qui ne fait pas partie du monde auquel nous sommes habitués en général. Quelque chose de divin, quelque chose de mystérieux, et qui change la nature d'un objet ou d'un être. Est-ce que c'est clair? Bon. Ça, c'est une catégorie qui est dérivée de la pensée magique, de la pensée païenne, nous y reviendrons souvent. Et en tout cas, essayez d'éviter, comme vous l'avez fait d'ailleurs, d'employer le terme de sacré, de tout ce qui va avec, pour parler de la sainteté.
C'est
comme ça. Hein? Oui. Bon, en latin, c'était le mot « sacer ». Par exemple, si je prends l'image d'un rite païen, sans entrer trop dans un exemple précis, le fait de dire une formule quelconque fait que l'objet sur lequel j'ai dit cette formule devient sacré. Par exemple, le pain. Je vais dire une formule, et alors le pain va changer de nature, il va devenir sacré. Bon, enfin, à la limite, vous avez le rite de l'hostie chez les chrétiens. Bon, enfin, c'est très général. Dans les mentalités de ces religions naturelles que je vous ai déjà appelées païennes, qu'une formule, qu'un certain sacrement va changer la nature de l'objet dans le monde ou de la personne et lui donner une nature différente. Alors qu'on pourra utiliser parfois dans la traduction le terme de consacré, okay, et qui montre cette notion de séparer du reste, okay, voué à, ça pourrait être utilisé, mais la notion de la chose sacrée qui s'introduit dans un objet ou dans une personne ne fait pas partie de la mentalité de la Bible. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Bon, tout ça c'est pour élaguer un peu, pour arriver à la notion de sainteté elle-même. Mais retenez les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. De quelle idée nous sommes partis? Que la Torah va nous parler de l'histoire humaine comme étant l'effort d'un projet à accomplir. Okay. Et je vous ai donné des exemples. Il arrive que dès qu'une culture donnée sent que l'histoire, ça sert à quelque chose, c'est un effort pour essayer d'accomplir un certain projet, qu'il se passe quelque chose dans le temps et que l'on cherche à mettre en évidence l'axe de ce sens de l'histoire, alors apparaît, entre guillemets, une messialité donnée et l'histoire nous donne un certain nombre d'exemples. Je pourrais vous poser par exemple la question, et ce serait un autre exemple, donc pour la conscience chrétienne, quel est le sens de l'histoire, quel est le projet de l'histoire? Mais c'est un peu trop compliqué pour notre sujet. Retenez au moins ces deux exemples qui nous reviendront dans beaucoup d'analyses sociologiques de la société. Pour comprendre l'histoire juive, qu'est-ce qui s'est passé au temps de la Révolution française? Un certain projet est apparu et il s'est heurté à ce que je voulais appeler l'échec. De la même manière pour la Révolution socialiste. Chaque fois, vous remarquerez, les Juifs sont séduits, sont tentés, peut-être plus que les autres, avec un accent supplémentaire, par ces projets du sens de l'histoire. C'est clair ce que je dis là? Mais au fil, il y a quel point, quand le projet de la Révolution française est apparu, les Juifs se sont jetés là-dessus comme des papillons dans une chape. Exactement comme ça. Ils ont disparu dedans. Quand le projet de la Révolution socialiste est apparu, réaction de l'âme juive, d'abord en Russie et un peu partout, de fascination. C'était peut-être ça qu'on attendait. C'est quelque chose qui ressemble. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et j'essaye de vous mener assez rapidement à différencier ces projets des sociétés humaines dont on a eu ces exemples, et d'autre part ce que serait le projet de sainteté. Mais retenez bien d'abord que l'atmosphère du récit reste la même. C'est le récit d'un échec jusqu'à ce que ça réussisse. Top. On reviendra là-dessus par la suite. Alors maintenant, on aborde quand même la question de front. Vous ne m'avez pas encore donné de réponse. Quand vous dites que quelque chose ou que quelqu'un peut être dit saint ou saint, qu'est-ce qu'on veut dire par là?
Il est séparé du commun des mortels.
Ça y est, ça, déjà, on a eu l'idée. Mais c'est une définition formellement négative. On sait ce qu'il n'est pas. Mais qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas comme les autres. Mais qu'est-ce qu'il est? Alors, dans l'ordre, quel est la plus?
Si je regarde le plan de la création, je vois que dans le projet, même si c'est approximatif, on emploie souvent le mot tome, lorsque le projet correspond, la finalité correspond au projet.
Oui, je crois pas que tout le monde a entendu. On emploie le mot
tome.
Et Dieu dit que cela a été bien, très bien.
Alors, le septième jour, on emploie donc à ce moment-là le mot saint. On va sanctifier ce jour-là. Est-ce que ce n'est pas pour que l'amener vers ce tome? Et c'est que ce qui n'est pas vers ce tome n'est pas saint.
Bon, on n'a pas tellement avancé, parce que on voudrait dire que quand il sera dit tome.
Ça correspond en étant sainteté.
Mais c'est encore formel. C'est encore formel. C'est-à-dire quand cette sainteté sera réalisée, alors on pourra avoir un verset qui dira Dieu vit que c'était tome. Mais de quoi il s'agit? C'est encore une
fonction. C'est resté dans l'acte du projet.
D'accord, mais on cherche le contenu. On va avancer un peu plus vite. C'était toi d'abord, Alcoba.
Je crois que l'homme saint, c'est l'homme tel qu'il doit être. Et le jour saint, par exemple, on parle du Shabbat, c'est le jour.
Bon, tu répètes ce qu'Eliezer a dit d'une autre manière, mais il manque encore le contenu. C'est clair? Bon.
Moi, quand je pense au mot saint, je pense à la notion de justice, de juste.
C'est une autre notion. Non, c'est des niveaux différents. Un homme peut être tzadik et pas encore kadosh. Je crois que ce qu'on a dit hier soir, ce serait important. Il faut qu'on ait quelques cours au moins de logique formelle et qu'on apprenne à raisonner. Ken, ça c'est urgent. Ensuite, et après on arrive à se finir avec toi. Ken.
Ce que je voudrais dire, c'est un peu choqué, mais j'entends les termes de... Enfin...
Réponds.
Alors, c'est quelqu'un qui est touché par un tabouret.
Ok. Ça, à la rigueur, on pourrait dire qu'il est gracieux. Non, c'est trop vague, et puis on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Bon, alors encore une réponse, Yerouga.
Moi, je pense à l'unité de la personne.
Très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, moi?
Eh bien, justement, que quand on parlait de décalage hier, cette personne est arrivée à...
Donc, qu'est-ce qui t'a... Très bien. Bon, on va commencer par là. Mais qu'est-ce qui t'a mené à cette définition?
Parce que
à relier la notion d'unité de la personne et la notion de sainteté. Par rapport au
quotidien.
Non, non, explique comment ça a cheminé. Peut-être ça a cheminé par intuition, mais peut-être tu peux expliquer. C'est dans ce sens-là que nous allons trouver la définition. Alors là, je vous donne l'explication. Et tout ça, nous aurons à le reprendre et à l'exploiter par toutes les autres notions, les autres analyses, les autres références. Tout se passe comme si les grandes civilisations qui ont essayé de définir un projet de l'histoire, vous voyez dans quel sujet nous sommes, le septième jour, c'est le temps du monde où est logée l'histoire humaine, il y a un certain projet à accomplir, tous les jugements que la Torah nous raconte, par exemple au temps du déluge, sont des constats d'échec, jusqu'à ce qu'on arrive à la réussite. C'est ce qu'on appellera un espèce de courant de messianité. Mais lorsque on essaye de définir ces options des grandes cultures, des grands empires, des grands universalismes d'ailleurs, à travers l'histoire, on s'aperçoit qu'ils choisissent toujours une valeur qui est vraiment une valeur, mais qui devient dénaturée, qui se dénature, qui se caricaturise, qui va à l'échec, parce qu'elle s'isole de toutes les autres valeurs. Alors que le projet de sainteté, c'est d'abord, premièrement, le projet de toutes les valeurs à la fois, de l'unité de toutes les valeurs. Je ne sais pas si c'est exactement cela que tu voulais dire, mais ça va dans ce sens. Je vais vous donner un exemple très simple. Prenons des valeurs fondamentales. J'en prends trois qui sont classiques et fondamentales. On prend la valeur du vrai, la valeur du faux et la valeur du bien. Et la vérité, la beauté, la bonté, enfin la bonté dans le sens fort, la moralité. Okay. Eh bien, si une notion, une intuition, que le projet de l'histoire, c'est de faire réussir la valeur du vrai, et tout le reste devient secondaire, puis il y en a d'autres, okay. Alors vous avez toute une tentative, mais qui inévitablement est vouée à l'échec, parce qu'elle a négligé les autres valeurs. C'est clair? Parce que la difficulté est que c'est pas évident que ce qui est vrai soit aussi beau et bien. Alors, ce qui est vrai réalise un absolu des valeurs, la valeur de vérité. Ce qui est beau réalise un absolu des valeurs, la valeur de l'esthétique, la valeur de la beauté, etc. Et vous avez, si vous voulez, de façon évidente, dans le bilan de l'histoire des civilisations, des options de ce type. Ça ne veut pas dire que les hommes, disons, de la Grèce, où finalement apparaît l'idéal de la beauté, mais il apparaît en dominante. Ça ne veut pas dire que les hommes de cette société n'aient pas ressenti l'importance des autres valeurs. Mais tout se passe comme si l'homme, à travers l'histoire, a été d'une certaine manière condamné à choisir un idéal parmi les autres, et c'est cela qui explique qu'en fin de compte, ça aboutit à l'échec, parce que les autres dimensions de l'absolu, les autres dimensions des valeurs, finalement, se vendent. Attendez, on repart. Laissez-moi continuer un peu. Est-ce que c'est clair? Alors, par postulat, vous n'avez pas compris ça? Alors, je réponds. La conscience humaine est sollicitée par différentes valeurs. Okay. Et tout se passe comme si, lorsqu'elle assigne une des valeurs comme projet de l'histoire, elle néglige les autres. C'est pas qu'elle ne les connaît pas, mais elle n'est occupée qu'à la réussite d'une des valeurs chaque fois, et les autres sont donc négligées. Je prends dans ce domaine-là, qui est le domaine moral auquel il faut toujours revenir quand même, de façon dominante. Reprenons le problème de la dialectique entre la justice et la charité. Si une société est basée sur l'axe dominant de la charité, elle va finir par négliger la justice. Et sa charité, alors qu'au point de départ, le projet de charité est authentique, est authentiquement une valeur de l'absolu, va elle-même devenir un mal parce qu'elle va favoriser l'injustice. Vous comprenez ces idées-là? C'est-à-dire une valeur qui, au point de départ, est authentique, par le fait qu'elle devient exclusive et qu'elle néglige les autres, deviendra en fin de compte inauthentique. Et on pourra avoir cette expérience qu'on a à travers l'histoire, que des options de charité sont des primes à l'injustice. Par exemple. Ou, exemple inverse. Si l'option, l'intuition fondamentale est la justice et que la justice, finalement, la charité, c'est-à-dire la dignité d'autrui, en fin de compte, le rapport à autrui, se trouvait négligé, et en fin de compte, la société en question se heurte à des difficultés insurmontables, à un échec, elle éclate, et on se demande pourquoi, mais la réponse était très simple. Parce qu'on a privilégié une des valeurs au détriment des autres. Et ce qui est d'ailleurs, comme vous verrez par la suite, la définition même de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça consiste à ériger une valeur en particulier comme dominante et à négliger les autres. Et donc, je sens que tu as une résistance, mais on va y arriver. Essayez de reprendre à votre mémoire le panorama de l'histoire humaine tel que vous l'avez connu à travers ce principe d'explication. C'est que les grands courants doctrinaux du sens de l'histoire privilégient une valeur au détriment des autres. Ça ne veut pas dire que la valeur dont tu parles n'est pas une vraie valeur. Mais à partir du moment où elle devient exclusive, elle se dénature et on a bouclé à l'échec. Alors que, je voulais terminer, le projet de sainteté nous est donné d'emblée comme l'exigence de l'unité des valeurs. Le vrai c'est le vrai, le beau c'est le beau, le bien c'est le bien. Mais si une conduite est simultanément, en même temps, vrai, beau et bien, alors on l'appelle sainte. Voilà, est-ce que c'est clair, vous avez la définition de théologie?
L'unité, ça veut dire la totalité des valeurs. L'unité, ça veut dire la totalité des valeurs aussi.
Ça veut dire que toutes les valeurs sont là, mais pas simplement comme une somme, une à côté d'autre, elles sont unifiées.
Oui, unifiées, égales, on peut dire égales.
C'est au-delà.
Mais tout.
Quand un ensemble est unifié, apparaît une réalité qui transcende absolument les éléments.
C'est ça que je voulais dire à propos d'image tout à l'heure, mais il y avait près l'envers.
Oui, non, c'est le mot d'image qui m'a gêné. D'accord, j'ai compris. D'abord.
Est-ce qu'il y a
une
hiérarchisation des valeurs? C'est ça que je trouve un problème.
Est-ce qu'il y a?
Il n'y a pas là.
Non, au contraire, si on utilise le beau comme une valeur. Voilà, justement, c'est valeur morale.
Dans la réalité de. Quand je dis valeur, ça ne veut pas seulement dire valeur morale.
Il y a.
Bien sûr, le beau est une valeur en soi. Le bien est une valeur en soi. Barou. Et ça veut dire, c'est clair. Vous apprenez un mot barou, c'est évident. Que le. Mais bien sûr. Seulement lorsqu'elle est exclusive des autres, elle devient une contre-valeur. Comprenez bien. Et nous sommes à l'intérieur d'une tradition monothéiste. Ça veut dire que tout ce qui existe dans le monde, c'est le Dieu unique qui l'a créé. Et le Dieu unique est le Dieu du bien, comme le Dieu du beau, comme le Dieu du vrai, comme le. Et les autres valeurs. Okay. Il y en a 13.
Mais je ne veux pas. Les valeurs qui sont le mal, par exemple.
Pardon ?
Et si on prend des valeurs. Parfait,
chose.
Si on prend des valeurs négatives.
Non. Comment des valeurs deviennent négatives ? Lorsqu'elles s'érigent en idole. Lorsqu'elles sont isolées du faisceau des valeurs, de l'unité des valeurs, et qu'elles deviennent dominantes.
Non, mais le mal, ça existe en tant que je ne sais pas.
Bon, disons que c'est notre problème, ne parlons pas du mal aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que même des valeurs. Bonnes, positives, peuvent devenir mauvaises. C'est de ça que je parle. Bon, je veux dire, dans le langage du milieu, essayez de suivre mon analyse, vous êtes trop nombreux. Et rappelez-vous ce qu'on a dit hier soir là, avec regardez-vous. Bon, tu m'as fait oublier ce que je dis. Dans le domaine de l'expérience religieuse, on a l'habitude d'employer le mot de idole. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Chacun a son idole. À l'origine, ça veut dire que une des valeurs possibles qui sollicite la conscience humaine, auquel la conscience humaine, son âme, si vous voulez, est sensible, est érigée comme l'essentiel et le reste devient périphérique. Okay? À l'origine, cette valeur qu'on a érigée est une valeur authentique. Mais le fait qu'elle soit exclusive, cela devient idolâtre. Réfléchissez bien à la notion d'idole. Dans tous les mythes des idoles, il y a un fond, disons, dans la tradition juive, on dit une lueur, une étincelle de sainteté, sinon ça n'aurait pas été vivant comme mythe. Mais c'est dans des scories, dans une opacité totale, qui vient de ce que c'est coupé de l'unité des valeurs. Est-ce que c'est clair? Bon. Ça, c'est dans le langage de l'expérience religieuse, disons, au niveau de toutes les religions que l'histoire a connues. Dans le langage moderne, qui est laïcisé, qui est intellectualisé, on ne dit plus idole, on dit idéal, mais c'est la même chose. C'est-à-dire avoir un idéal particulier, et non pas l'unité des valeurs comme idéal, c'est d'avoir une idole. Quoique le vocabulaire idolâtre, j'ose dire, est resté dans le langage. Par exemple, dans le football, hein, il y a des idoles du basketball, je sais pas. Ou bien des idoles du cinéma, hein. C'est resté dans le langage. Et on parle même de stars, les étoiles. Regardez à quel point même le vocabulaire des religions les plus païennes est resté dans le langage. Okay. Vous avez compris le. Bon. Alors voilà ce que je voulais dire. Le projet de sainteté, c'est le projet de l'unité des valeurs. Okay.
Est-ce que dès le projet de sainteté et donc l'unité des valeurs, est-ce que la Torah nous conseille à connaître cette unité de valeurs? Le but de la Torah est de que tout le monde arrive à ces valeurs ou non?
Alors, explique un peu. Est-ce que tu veux dire que la Torah ne concerne que Israël ou tous les hommes? C'est ça.
Je veux savoir si. Non, un Israël. Est-ce que la Torah exige que le peuple d'Israël arrive à connaître cette notion d'unité de valeur? Si oui, est-ce que, si j'ai bien compris, on arrive à les connaître par le jour du Shabbat, ou on arrive à en approche par le jour du Shabbat, si c'est toujours exact, est-ce que par cette approche du Shabbat, connaissant ces valeurs, nous arriverons au huitième jour? Et si c'est le huitième jour, est-ce qu'il est ici ou pas?
Trop de questions là. Alors je vais. J'ai suivi.
Non, mais... c'était une logique.
D'accord, il y a trop de questions à la fois. En général, bon, vous avez une question sur le sujet, et après, vous voyez que les autres choses arrivent. On a 9 mois. Il faut 9 mois pour faire un enfant juif. Je veux dire, même juif. Bien, le Shabbat, c'est une des mitzvot. Ce que tu as dit là est vrai pour toutes les mitzvot. Le Shabbat, c'est une des mitzvot. Il y a. Parmi toutes les mitzvot, il y en a 3 principales qui sont appelées signes de l'alliance. Partout il y a haute vérité, signe de l'alliance, alors c'est dominant, c'est important. Okay? Mais c'est vrai pour toutes les mitzvot. Et la formule, c'est que chaque fois qu'on va faire une mitzvah, on dit une bracha avant la mitzvah, Asher kiddeshanu be-mitzvotah. Traduisez avec moi, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Vous y êtes? C'est-à-dire, toutes les mitzvot ont cet objectif. Mais l'exemple du Shabbat est privilégié, tu as eu raison de le mettre en évidence. Il y en a d'autres qui sont aussi privilégiés, mais il y a des niveaux dans la sainteté, mais c'est toutes les mitzvot à la fois. Asher kiddeshanu be-mitzvotah. Je voudrais peut-être profiter déjà d'avancer un peu plus, de faire une analyse un peu plus fine de cette formule, et on revient au sujet. Et le cas particulier d'Israël, qui va se dévoiler, et vous verrez cela dans l'ensemble du récit, ça apparaît déjà dans le livre de la Genèse, que le terme de sainteté va éclater dans le texte à partir du moment où l'identité Israël apparaît. Cette identité Israël n'apparaît pas de façon facile, c'est difficile. Abraham, Isaac, Jacob, et nous suivrons pas à pas toute cette histoire difficile de l'engendrement de l'identité Israël à partir de la mutation Abraham. Je remarquerai en particulier, ceci sera le sujet d'un cours pour lui-même, un thème qui a dû vous frapper. Les mères d'Israël sont toujours empêchées d'enfanter. Ça vous a frappé? Ça va, je ne veux pas dire stérile, ce n'était pas le mot exact en français, parce qu'en fait, quand elles enfantent, donc elles n'étaient pas stériles. Enfin, employons le mot comme stérile, en réalité, c'est Mena Achal a été empêché d'enfanter.
Sauf
Sarah. Laissons-moi parler. Sarah, ensuite Rivka, ensuite Rachel, et pourquoi pas Léa, tout ça nous étudierons. Et ensuite, ça revient, Hana, et c'est un thème permanent. Et que nous vivons d'ailleurs dans notre histoire, je vais essayer de l'éclairer, en tant qu'histoire du peuple tout entier. Pendant longtemps, une étape fait du surplace. Et on croit que Israël est venu stérile. Subitement, l'enfant apparaît, tout le monde éclate de rire, la naissance d'Israël, okay. Et dans ce rire, il y a beaucoup de choses. Il y a un rire de moquerie, il y a un rire de dérision, il y a aussi un rire de joie, il y a un rire de stupéfaction, il y a un rire de... c'est le rire qui accompagne la naissance d'Isaac. Okay. Alors, que signifie ce terme? Que signifie ce terme que il y a difficulté de l'engendrement de l'identité d'Israël? Je donne tout de suite la réponse pour que ce soit bien quelque part dans votre esprit. C'est là où ça passe que c'est difficile. Ailleurs, c'est très facile. C'est des approximations qui se multiplient. Là où l'engendrement continue, c'est là que c'est difficile. Et tant que l'étape de maturité qui permet que l'étape suivante sera réussie et que ce ne sera pas une approximation n'est pas encore là, il y a du surplace. Et pendant 2000 ans, tous les historiens, je pense surtout à Renan, est-ce que vous avez connu l'histoire du peuple juif de Renan? Ceux qui l'ont lu, vous rappelez sa conclusion, ou après avoir raconté sur 5 ou 6 volumes, je ne sais plus quelle édition, enfin, un très bon ouvrage de Renan, n'avez pas entendu parler d'Ernest Renan?
Oui.
Bon, il a écrit l'histoire du peuple juif. Et à la fin de cette histoire, il dit dans un paragraphe, eh bien, il faut déplorer que ce peuple-là est devenu une souche stérile, alors que le reste, que la suite est passée par le christianisme. Lui était chrétien. Okay? Et vous voyez, encore, vous êtes à la fois privilégié et pas privilégié. Vous êtes déjà né après l'État d'Israël. Et essayez de faire un effort de mémoire. avant qu'arrive cette naissance d'Isaac, vous comprenez la comparaison que je fais, okay? Eh bien, tout le monde, c'était une évidence dans toute la culture universelle que le peuple juif était devenu une souche stérile, confère Renan. C'était cité dans tous les cours, chez les goyim. Okay? T'es habitué à cela. L'hébreu, langue morte. Alors imaginez la résurrection de l'hébreu. Okay? Et tout le monde commence à éclater de rire, et puis le rire est de différentes sortes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. En particulier, j'ai gardé dans ma mémoire le rire de Nasser quand il a nationalisé le canal de Suez. Je vous parlerai un jour du rire d'Ishmael, c'est dans le texte.